On va engager ce que je vous ai dit ce matin. Gilles Bounour est dans l'incapacité d'être là aujourd'hui. Donc si vous voulez savoir ce qu'il en est de la Fédération des artistes autour de Courbet, je vous renvoie aux actes. Et on a imaginé que ça pourrait être tout à fait intéressant d'avoir entre vous et nous, et surtout entre vous, ce qu'on appelait dans les milieux libres du 18e arrondissement dans les années 1900, autour de Libertad et de quelques autres, une causerie populaire. Alors les causeries populaires, historiquement, c'est intéressant, parce qu'il y avait le mouvement des universités populaires, qui fonctionnait relativement bien, qui avait été fondé par un anarchiste, Georges Deherme, et puis par un prof de philo à la Sorbonne, Gabriel Céaille. Mais c'était quand même très magistral, et c'était quand même du savoir savant qu'on diffusait. Et un certain nombre d'anarchistes ont considéré que c'était bien joli d'entendre ces gens-là pérorer, mais qu'on avait vraiment envie de parler de la question sociale. Et donc ils organisent, un peu en parallèle des universités populaires, les causeries populaires, donc dans le 18e arrondissement. Et donc on préparait l'un ou l'autre un thème, et ce thème, une fois préparé, on le publiait assez fréquemment dans un journal qui s'appelait « L'Anarchie », avec un A minuscule, puisque Anna Mahé, que j'ai évoqué tout à l'heure, proposait une réforme de l'orthographe, et entre autres la suppression des majuscules, pour des raisons, là aussi, hiérarchiques. Vous comprenez, la majuscule, c'est une forme de hiérarchie. Bon, elle était un peu radicale, on va dire. Voilà. Donc, ce qu'on vous propose, et on a un grand témoin qui est Serge, qui a fait l'article de l'université, de l'encyclopédie anarchiste Nouvelle Mouture, qui a fait l'article sur les ZAD. Voilà. Et donc on vous propose, mais en toute liberté, même si on dit des choses qui sont approximatives, eh ben, de disserter, de discuter sur y a-t-il des liens entre la Commune de Paris, qu'on a largement évoqué depuis ce matin, les ZAD, donc les zones à défendre, dont celle la plus connue de l'ouest de la France, le Chiapas, où il se passe un certain nombre de choses intéressantes depuis plusieurs années, voire le Rojava, où effectivement un certain nombre de militants se réclament peu ou prou de Boukchine et du municipalisme libertaire. Donc, à vous la libre parole sur « oui, je crois qu'il y a des liens en termes de pratique, des liens en termes de projet, des liens en termes de valeurs entre ces différents espaces ». Et donc la parole vous est tout à fait donnée et peut-être que de temps en temps, Serge souhaitera apporter un éclairage sur tel ou tel élément, dans la mesure où il connaît bien ces trois champs. Voilà, donc à vous de demander la parole, on vous la donne. Franck, vas-y.
Alors je vais commencer par un pays assez lointain et assez sous-développé, qui s'appelle la France. Et je vais vous donner un exemple, la France, la Commune de Paris. Alors, décembre 2017, au Mans, il y a une discussion sur le sens, ce qu'on peut tirer au bout de 100 ans de la révolution soviétique. Il y a une centaine de personnes, tous les courants sont représentés. Et il y a un cheminot retraité dans la salle qui dit « Mais pourquoi est-ce qu'on ne s'organise pas avec des assemblées qui élisent, choisissent des représentants révocables, etc. ?» Et à ce moment-là, j'avais à côté de moi, je représentais, disons, ce qui est anarchiste. J'avais à côté de moi un grand représentant du parti, si j'ai bien compris, plus ou moins financé par la Russie de Poutine, enfin un certain Jean-Luc Mélenchon, donc représentant de son parti, disant « Ah oui, oui, absolument d'accord, camarade. Oui, oui, il faut revenir effectivement à la pratique, aux enseignements de la Commune de Paris. Ça se fera lorsque le parti le décidera. » Voilà. Donc, je vous laisse réfléchir à cette reflet de la Commune de Paris en décembre 2017.
Voilà. Voilà d'autres souhaits d'intervention sur ces questions. Rojava, Commune de Paris. Chiapas, ZAD.
Pour ce que je sais du Chiapas, c'est-à-dire pas tout, mais un peu, depuis 1994 quand même que ça a commencé, je pense que le lien que nous pourrions essayer de faire, c'est effectivement entre la pratique à ce que l'on appelle assembléiste, c'est-à-dire que les décisions sont prises en assemblée, et d'autre part, l'action directe, mais au sens anarchiste du terme, ne nous trompons pas. Donc, il me semble que là, on peut tracer un lien, effectivement, avec la commune, les pratiques de décision qui ont été mises en œuvre dans la commune, mais je dirais avec quand même un peu de prudence, parce que le mouvement indigéniste a ses propres références. Ce n'est pas seulement la commune, loin de là.
Oui, il n'est pas question de faire de la récupération des chiapatistes, ou je ne sais pas quoi, mais c'est de voir que d'un siècle à l'autre, d'une culture à l'autre, on peut avoir les mêmes intérêts et développer les mêmes pratiques, qui sont des pratiques émancipatrices pour les hommes et pour les femmes, et les gens du Chiapas l'ont très largement montré.
Oui, pour prolonger ton intervention, effectivement, les thèmes qu'a abordé Hugues, il se trouve qu'on a fait un certain nombre d'émissions trop noires autour de tous ces thèmes, disons les alternatives aujourd'hui, et puis aussi le relier avec des alternatives, les brèches de l'histoire, ce que j'appelle les brèches de l'histoire. Et les brèches de l'histoire, il y en a aujourd'hui, et notamment au Chiapas, par exemple. Le Chiapas est vraiment très intéressant parce qu'il y a quand même, déjà, il y a la durée. Bon, la commune, je ne sais pas, ça doit dire 70 jours, 80 jours. Bon, il reste des traces, évidemment, on en a parlé. Là, quand même, c'est même avant 94. Il y a eu pendant 10 ans un certain nombre d'intellectuels sympathiques, bon, et qui sont allés convertir des indigènes au marxisme-léninisme. Et en fait, c'est eux qui ont été convertis. Peut-être la forêt, peut-être la culture horizontale qui était dans ces peuples. Et effectivement, ils sont apparus en 94, mais déjà, il s'est passé pas mal de choses. Après, ils ont réussi à négocier, y compris militairement. L'État leur a fait des promesses, accorde San Andrés pour ceux qui connaissent. Évidemment, on n'a absolument pas tenu ces promesses. Donc ils ont dit, en gros, hein, l'État, c'est fini. On n'y croit pas, on n'y croit plus, y compris pour l'avenir, on n'y croit pas, important. Donc, il fallait mettre en place une société avec tout ce que ça implique, à la fois en lien avec leur culture, qui est un fonctionnement horizontal, il restait vraiment des traces dans ces coins-là. Moi, j'ai voyagé à l'époque, il y a bien longtemps, et on sentait qu'il se passait quelque chose, avant 94. Hein. Je suis allé bien avant. Et... Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on reprend en charge une société ? Là, le lien avec Hugues est parfait. Éducation. On met en place l'éducation.
Et c'est vrai que les apatistes ont mis en place les petites écoles.
Et donc, il fallait partir de zéro. Zéro, c'est-à-dire les élèves, les jeunes indiens, enfin divers peuples indiens, allaient à l'école officielle, on leur apprenait rien, puisque c'était parlé espagnol, ils ne connaissaient pas l'espagnol. Voilà, donc, ils n'avaient pas d'instituteur, etc. Bon, je n'ai pas le temps de détailler, je renvoie à des émissions qu'on a fait là-dessus éventuellement. Donc, ils ont mis en place tout un système. Alors, ce qui est extrêmement intéressant, c'est leur système d'éducation. Ça recoupe évidemment leur mode de fonctionnement de la société. La société a un mode fédéraliste pour aller vite avec trois niveaux, village, commune autonome qui regroupe des villages et Caracol qui est la région pour aller très vite. Bon, ils sont partis sur 5 régions, je crois qu'ils en ont 11 maintenant. Donc, le village, c'est là que démarre la petite école. Alors, je ne vais pas dire le primaire, parce que, bon... Mais la responsabilité est collective. C'est le village qui est responsable de l'école. À l'intérieur de l'école interviennent les parents. Il y a toute une culture qui se passe, à la fois historique. Il faut se réapproprier sa culture, mais en même temps, quel est le travail qu'on fait ? On travaille la terre collectivement. Bon, en plus, les élèves vont beaucoup plus... pratiquement chaque demi-journée se passe en extérieur, enfin, selon la saison, etc. Ils ont mis en place ce système-là. Bon, après, je passe, il y a des choses qui sont prises ensuite au niveau au-dessus, puis après, au niveau du Caracol. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est un truc que j'aime bien. Pourquoi Caracol ? Je ne sais pas si tout le monde le sait. Voilà, super. Caracol, ça veut dire escargot, mais ce n'est pas la fin de la vie. Dans le Caracol, c'est le cercle. Et le cercle, dans cette société, c'est quelque chose d'extrêmement important. Les salles de classe sont rondes, etc. Ils n'ont pas le carré. Enfin, c'est symbolique.
Et puis donc, le caracol, c'est une société qui va doucement et qui prend le temps de prendre des décisions collectives et qui ne se précipite pas sur des décisions hiérarchiques, vite fait, bien fait, mal faites.
Donc ça, c'est très intéressant. Je ne vais pas plus loin, mais ce qui est intéressant, c'est de voir sur la durée comment ça s'est fait. Il y a des textes qui ont été publiés en français, d'ailleurs, sur des gens qui sont allés là-bas, qui sont restés assez longtemps, et qui décrivent ce système, l'évolution du système, comment finalement des jeunes, il y en a certains qui vont devenir un site. Alors, quand on est un site, ce n'est pas comme ici. Quand on est un site, on est toujours paysan. Enfin, il y a peut-être des instituts paysans ici, mais... par exemple, le travail de la terre est pris en charge par le collectif le temps que la personne reste un site, etc. Enfin, il y a tout un système collectif qui est en lien avec le mode de société. Ça, c'est très intéressant. Bon, un deuxième aspect, je ne le détaillerai pas, ils ont pris en charge tout le système de la santé. Et ça fonctionne exactement de la même façon. C'est-à-dire, bon, il y a des choses, la santé courante se fait dans le village, etc. Après, dans la communauté autonome qui regroupe plusieurs villages. Voilà. Il y a une chose, je terminerai là-dessus, une chose importante quand même, je reviens sur l'éducation. L'éducation, parce que bon, dans une communauté autonome, en gros, les gens parlent à peu près la même langue, parce que c'est plusieurs peuples qui ont des langues relativement différentes. L'éducation se fait à la fois dans la langue d'origine du peuple et en espagnol. Ça permet de communiquer avec le pays dont ils se revendiquent. Hein. Ils ne veulent pas un État à part. Hein. Ils sont de Mexicains et ils revendiquent d'être Mexicains. Et d'autre part, ça permet éventuellement de communiquer aussi entre eux. Enfin, c'est tout un système... j'insiste beaucoup sur l'aspect éducation parce que... C'est pas parce que Hugues m'a convaincu, mais c'est parce que je pense que pour une société qui se met en place, qui est complètement différente de la société qu'on subit, l'éducation, c'est quelque chose qui vient qui est naturellement.
Mais ça, c'était le même projet. Enfin, Franck en parlera peut-être mieux que moi, mais le mouvement anarchiste espagnol aussi, sachant que les enfants étaient soit pas éduqués du tout, soit éduqués dans des écoles cléricales, donc d'une certaine manière conformés à la pensée cléricale et monarchique, eh bien le mouvement syndicaliste révolutionnaire et anarcho-syndicaliste espagnol qui était puissant va créer ses propres écoles, à la fois pour que les enfants du prolétariat accèdent à la culture et qu'ils accèdent à une culture en lien avec le devenir de la classe ouvrière libertaire espagnole. Donc, tous les gens qui mettent en place des systèmes éducatifs mettent en place des systèmes éducatifs parce qu'ils ont une finalité sociale. La République, je vous le disais avec Jules Ferry, il veut en finir avec le temps des révolutions, sachant qu'au moment de Jules Ferry, par exemple, il y a trois grands modèles éducatifs qui se développent. Il y a le modèle ferriste, pour faire des petits républicains. Et quand on me dit que ça n'a pas marché, moi je dis que ça a très bien marché, l'école ferriste, parce qu'on y est toujours. On a toujours des bons petits républicains qui vont peut-être aller aux urnes autour du 22 mars. Il y a une autre école, qui est l'école qui a été mise en place plus ou moins par les religieux autour de Falou et de quelques autres, où on va moraliser la classe ouvrière et où les curés... portent la bonne parole, si je puis dire, ou la parole de je ne sais trop qui, et sans doute pas de la classe ouvrière. Il y a un troisième modèle qu'on n'a pas réussi à développer ici, qui a été tenté certaines fois par les bourses du travail, c'est développer un propre système éducatif du mouvement ouvrier, porté par le mouvement ouvrier de manière autonome. On est toujours dans ces mêmes logiques.
Juste deux petites précisions, et après, je pensais aux gens qui sont dans la salle d'intervenir. Dans ce qui est important dans leur système, j'élargis, pas uniquement sur l'éducation, dans leur fédéralisme, quand on dit fédéralisme avec divers niveaux, ça veut dire qu'il y a des délégués qui sont envoyés, par exemple des délégués des villages sont envoyés dans la commune autonome. Qui sont ces délégués? Ces délégués, là-bas, en tout cas, c'est des paysans. Donc, ils restent paysans. C'est-à-dire que, par exemple, sur un poste, ils sont deux, en fait, de façon qu'il y en a un qui puisse revenir cultiver sa terre. Bon, je dis ça pour ceux qui font du syndicalisme. Par exemple, on s'aperçoit que certains, j'espère pas ici, en tout cas pas avec la CNT, une fois qu'on est délégué, qu'on devient plus ou moins permanent, on n'est plus tout à fait travailleur. Alors là-bas, ça c'est pas possible. Une deuxième précision, à mon avis extrêmement importante, qui décrit le mode de société qu'ils essaient de mettre en place et qui va quand même dans le sens de ce que proposent les anarchistes, enfin, du moins je le pense. Dans un village, on n'est pas obligé de devenir zapatiste. C'est-à-dire qu'il y a le fond, l'État est encore là. Par exemple, il peut être là avec une école, il peut être là avec un système de santé. voir avec un système de justice, parce que je n'en ai pas parlé, la justice n'a absolument rien à voir avec la justice étatique. Donc, quelqu'un peut choisir de rester du côté de l'État, avec en général, il reçoit un peu d'argent, ça aide, mais on n'oblige pas les gens à... C'est un peu, on retrouve ce qu'il y a eu en Espagne, par exemple, dans la collectivité paysanne. Les paysans n'étaient pas obligés d'adhérer à la collectivité. Ils ne participaient pas à la vie collective. Moi, je pense que c'est une précaution importante aussi. Ceci étant, c'est pas pour ça qu'on dit qu'il faut les copier, parce que, bon, ils ont toute une culture horizontale qu'on a perdue de plus en plus. Donc, on a tout un travail d'éducation au sens large. Et c'est pour ça, après, on débouche sur les alternatives, sur des choses comme ça aujourd'hui qui peuvent montrer qu'on peut fonctionner autrement. Parce que tout le système tient à la fois par la répression et aussi il tient parce que dans l'esprit des gens, c'est pas possible de vivre autrement. Bon, c'est pas terrible le capitalisme, mais on peut pas vivre autrement. Donc d'où l'importance de ce week-end, de la mémoire et des brèches de l'histoire. Okay. Et
Serge,
à la prochaine brèche, on sera prêt.
T'es un grand témoin, c'est bien, t'as témoigné. Maintenant, on aimerait bien que vous vous exprimiez. Voilà, donc il y a Natacha, je crois, qui va nous dire un mot. Vas-y.
Vous me le dites, non ?
Ne l'agresse pas, Fred.
Oui, ok. Alors, en fait, c'était pas spécialement une lutte actuelle, mais du coup, je trouvais intéressant de revenir avec ce qui s'est passé en Espagne, où justement, ils sont énormément inspirés, justement, après de la Commune de Paris. Au départ, le mouvement ouvrier espagnol, c'est pas du tout pris de solidarité quand la Commune était en place. C'est que après que c'est rentré dans l'imaginaire collectif et international espagnol. Et ce qui s'est passé, c'est que quand on voit les Athénéos du coup qui faisaient, où justement c'était de l'éducation complètement intégrale qui faisait que c'était pas seulement ça se passait après le travail, que c'était le soir et le week-end, et que c'était pas seulement de l'éducation ou du séparer l'intellectuel du physique, puisque il y avait souvent des sorties organisées le week-end, etc. Et des conférences et enfin tout ça gesticulait beaucoup. Et du coup, le lien avec les clubs politiques de la Commune de Paris, qui étaient eux-mêmes inspirés de 89.
Voilà, donc une intervention. Quelqu'un d'autre ? Franck, oui. Vas-y. Voilà.
Alors, excusez-moi si ça va être un peu confus. J'ai déjà parlé de la France comme pays sous-développé. Doumer 2017 qui rejette les enseignements de la Commune. Je pense que c'est... Enfin, j'en parlais avec ma compagne. Donc, on est enseignant, fait partie de cette catégorie de la population qui est soit forme des imbéciles parce qu'ils sont des imbéciles, soit qui essaye de former des gens émancipés parce qu'ils pensent qu'ils sont émancipés. Mais de toute façon, comme tu viens de le dire, Hugues, on a abordé pratiquement, tu as dit, trois types d'éducation. Je pense que dans la réalité, enfin, d'après les réactions des gens, c'est plus complexe. À partir du moment où les gens ont accès à la culture, par exemple, j'ai pris là tout à l'heure l'exemple indirectement de l'Union soviétique. Bon, on sait lire. On est tous formés dans le marxisme-léninisme, qui est obligatoire. Les grands-parents étaient formés dans le marxisme-léninisme. Les parents aussi. Ça paraît pour être... Même quand on est à l'université, il faut savoir connaître le marxisme-léninisme. Et puis on tombe sur ce texte de Lénine qui dit « Il faut que les fonctionnaires ne gagnent moins que les ouvriers. Il faut que les membres de la police puissent être... destitués et les juges disent mais on vit dans la merde, on vit complètement exploité, c'est-à-dire qu'il y a une réaction. Pourtant les gens ont été formés dans le marxisme-léninisme, mais on s'aperçoit que tout a été foutu en l'air. Et en décembre 91, quand le Parti communiste est destitué, on n'a aucune manifestation pour demander la continuation, pour demander que le marxisme-léninisme, qui est le chemin de l'humanité, l'URSS, c'est la patrie du socialisme, personne ne demande que ça continue. C'est-à-dire que cette éducation qui a commencé en 1922, elle n'a servi à rien. On a voulu déformer les gosses, on y a pas, ils ne sont pas arrivés. Et je prends un pays, alors là, tout à fait sain, au niveau S-A-I-N-T, c'est-à-dire l'Espagne de Franco, le fascisme catholique, hein, le franquisme. Ben, quand, disons, Franco est mort, quand le Parti communiste a été reconnu en février 1977, personne n'est descendu dans la rue pour demander que les cours de phalangisme continuent à être obligatoires, que les cours de religion chrétienne, religion catholique continuent à être obligatoires. C'est-à-dire que cet enseignement qui a été donné entre 1939 et pratiquement 1976, avec les crucifix dans chaque classe, c'est tombé dans la merde. Hein, il reste des gens, mais je veux dire que l'éducation obligatoire, elle permet quand même de réagir. Il y a des moments où les gens, même s'il y a 77 millions d'imbéciles, c'est mon opinion personnelle, qui ont voté pour Trump, mais à un moment, je pense, certains, je ne sais pas combien de millions, vont se rendre compte qu'ils ont affaire à un imbécile, qu'ils ont été trompés. Donc je pense qu'indépendamment de notre action, on ne doit pas complètement mépriser l'éducation des autres, parce que justement, elle ne peut pas cacher les contradictions. Quand le pape est allé au Chili, sauf erreur, en 78, il a été accueilli par de braves catholiques, des chefs d'entreprise, lui disant « j'ai été violé par un tel qui est actuellement archevêque », et c'est-à-dire que c'est un catholique qui se rend compte de la stupidité du catholicisme. Et actuellement, ce qui se passe d'abord en Allemagne et d'abord en France, c'est une prise de conscience qui, de notre point de vue, est intéressante. On ne veut plus de hiérarchie, on ne veut plus être commandé comme si on était dans une caserne. Donc je pense qu'il y a toute une série de prises de conscience qui sont lentes, mais même dans une société complètement fermée, bon, disons, les camarades, entre guillemets, bien sûr, talibans actuellement en Afghanistan, ils en prennent déjà plein la gueule avec les filles ou les femmes qui ne voient pas pourquoi elles devraient être tout le temps à la maison au nom de l'islam, alors que ce n'est pas dans le corps. Bon, c'est tout.
Okay, donc, une autre prise de parole, mais si on pouvait revenir un petit peu au Chiapas, au Rojava, voire à nos ZAD, pour rester dans le thème. Qui souhaite intervenir? Il n'y a pas un zadiste dans la salle? Si, il y a une zadiste.
Quelqu'un? Oui.
Voilà, oui. Donc, qu'est-ce que tu penses de notre proposition? Y a-t-il des liens entre ce que les ZAD ont développé et ce que la commune a tenté de mettre en œuvre durant 72 jours?
Moi, j'ai une expérience à la ZAD du Carnet où il y avait des tentatives d'éducation populaire, mais c'était vraiment des ébauches de tentatives d'éducation populaire. Et en ayant à cœur de vraiment se méfier des prises de pouvoir qu'on pouvait avoir selon d'où on venait et les privilèges qu'on avait. Mais il y avait vraiment un gros problème de lacune en termes de concept, c'est-à-dire qu'il y avait souvent tendance à confondre l'absence de pouvoir et l'absence d'organisation. Ce qui faisait que c'était très compliqué parce qu'il y avait une volonté très louable de vouloir faire quelque chose d'horizontal et en même temps un biais total sur les oppressions, les violences qui pouvaient être reproduites en milieu militant et dit anti-autoritaire, entre guillemets. Quoi.
Oui. Sachant que là, ce que tu évoques là, c'est un débat qu'on a dans le milieu libertaire depuis très longtemps entre les assembléistes, où tout se passe dans l'assemblée, et on sait qu'il y a beaucoup de violence dans les assemblées générales et que c'est le dernier qui a parlé vers 11h30 du soir qui va emporter la motion, plutôt que de fonctionner comme les libertaires le proposent, avec éventuellement des délégués révocables et qui rendent des comptes et qui limitent, parce qu'on n'est pas une pureté absolue non plus, qui limitent ce genre de dérive où n'importe qui peut venir pour faire passer n'importe quoi. Autre, là-haut, en haut de la tribune, là, Il y a Kropotkine en personne qui veut intervenir. On ne va pas s'en priver.
La parole est à M. Kropotkine.
Non, mais je précise tout de suite, Kropotkine est mort en 1921. Et moi, la différence, c'est que je suis bien vivant. Voilà. Donc, non, moi, ce que je trouve le lien évident qu'il y a entre la commune, la ZAD et le Rojava, c'est qu'à chaque fois, ce sont des alternatives en acte. C'est-à-dire que, bon, dans le système politique, quand ça se joue au niveau d'un pays ou d'une grande ville comme Paris, par exemple, en ce qui concerne la commune de Paris ou les autres communes qui ont été citées, ou au Rojava, ça prend une ampleur qu'on pourrait appeler de révolutionnaire. Hein, c'est une dimension qui est... mais pour moi, ça reste une alternative. Une alternative comme on en connaît toutes et tous. Hein, par exemple, la ZAD, on citait la ZAD, eh bien, c'était une alternative qui a été construite dans l'opposition. C'est-à-dire que là, il fallait trouver le moyen de résister à quelque chose qui est bien plus fort que nous, hein, croit-on, l'État, le système capitaliste. Et puis, les gens, ils sont obligés de créer et de s'organiser selon des modalités qu'ils doivent inventer. Et là, je pense qu'on retrouve ça aussi au Chiapas, au Rojava et à la Commune de Paris. C'est-à-dire qu'on ne veut pas reproduire, il faut qu'on crée d'autres manières d'autres propositions politiques d'organisation sociale. Ça reste vrai pour tout un tas d'autres alternatives qu'on se doit, nous, d'expérimenter, nous, libertaires, puisque le rapport de force n'est pas en notre faveur, me semble-t-il, en étant un peu réaliste. Mais moi, je suis jeune, je ne désespère pas. Hein, je pense que c'est pour bientôt. Mais n'empêche que quand on crée une coopérative alimentaire autogérée, eh bien, c'est, pour ce qui concerne celle où je suis investi, eh bien, c'est 110, 120, 130 familles qui échappent à aller à l'hypermarché. Et pour moi, c'est une lutte directement économique. Et c'est une alternative, parce que là, c'est une coopérative autogérée. Les gens, ils arrivent, ils attendent de trouver quelqu'un qui leur dit il faut faire ci, il faut faire ça. Et on ne leur dit pas du tout. Tu as un cadre, et dans ce cadre-là, le cadre sert simplement à fonctionner, hein, et il peut être remis en cause par tout le monde. Et s'il te satisfait, en tout cas, il te permet, ce cadre, de créer quelque chose que tu ne penses pas possible. Essaye et tu verras. Les gens essaient, ils se rendent compte que ça marche. Hein, et effectivement, le jour où on arrivera à faire une coopérative alimentaire autogérée dans chaque rue, et, on touchera beaucoup plus de monde. Moi, je pense qu'aujourd'hui, dans le schéma politique, on n'a pas d'alternative importante à chaque fois. Ce sont des organisations politiques qui veulent prendre le pouvoir à la place de ceux qui y sont. Hein, ça donne Mélenchon, ça donne moi j'appelle ces vieilles politiques, hein, veulent prendre le pouvoir. Moi, ce que je trouve intéressant, et bon, pour la commune de Paris, c'est un peu plus complexe parce que je pense qu'on ne sait pas trop, on ne travaille pas assez ces questions-là dans les écoles, mais ça mériterait qu'on étudie beaucoup plus à fond, qu'il y ait des millions de gens qui s'emparent de l'histoire de la commune pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut en retirer concrètement aujourd'hui. Parce que. J'arrête là, je suis trop long.
Non, c'était fort intéressant. Est-ce que quelqu'un d'autre veut la parole, peut-être ? Quelqu'un ? J'ai vu une main qui se levait. Oui.
C'est pour poursuivre sur l'intervention. Il y a les coopératives ouvrières de production aussi. C'est intéressant. Coopératives ouvrières de production, ça rejoint les besoins de production industrielle et de choses comme ça. Les usines où on fabrique des trucs. Et puis voilà. Voilà. Merci.
D'accord. Est-ce que quelqu'un veut la parole de nouveau ? Oui. Quelqu'un serait intéressé ?
Oui. On a évoqué aussi autre chose que...
Si je peux faire une remarque par rapport à coopératives alimentaires ou même par rapport aux ZAD, enfin, toutes ces alternatives que je ne hiérarchise pas, qui sont très intéressantes, je pense que finalement, on peut dire que c'est de l'éducation populaire. C'est-à-dire qu'on crée des choses et viennent des gens qui ne sont pas forcément des militants, si on prend le cas des coopératives, hein, quand on a fait des émissions là-dessus, mais qui découvrent que finalement, on peut vivre sans chef, on peut vivre, peut faire fonctionner quelque chose d'une façon horizontale, etc. Alors le problème qui se pose dans ces alternatives, alors je ne parle pas de la ZAD, je crois que tout le monde connaisse, c'est qu'à partir du moment où ça prend une certaine ampleur, l'État n'a pas disparu. L'État, c'est quoi ? Bon, c'est l'État régalien, c'est la police, c'est la justice, et c'est l'armée éventuellement. Et effectivement, ce problème-là est extrêmement difficile à résoudre dans les perspectives. Parce que fédérer effectivement un certain nombre d'alternatives, ça peut être possible. C'est notamment dans le domaine des coopératives alimentaires. Ça se fait doucement, mais sûrement, d'après ce que je connais. Si ça prend une certaine ampleur, il risque d'y avoir une répression sous une forme ou sous une autre. Ça peut être financière. Si on passe maintenant aux grandes alternatives, si on peut dire, du point de vue dimension, je rappelle quand même que ce qui concerne les apathies, c'est difficile à savoir, mais ça représente quand même 300 ou 400 000 personnes. Ils ont eu l'État mexicain, ils ont été obligés de créer le ZLN. Ce qui est très important, c'est que le ZLN, qui au début a initié un certain nombre de choses, ne contrôle pas tout ce que j'ai dit, les communes autonomes, etc. etc. Et en ce qui concerne le Rojava, c'est pareil, si même un certain nombre de militaires qui sont donc au Rojava voudraient prendre plus d'importance, en fait, pour l'instant, c'est quand même pas les militaires qui dirigent, bien qu'ils ont absolument besoin de se défendre contre des États. Visiblement, on sent bien que quand une alternative prend de l'importance, qu'elle soit géographique ou que se développant comme ça, ça inquiète beaucoup de dirigeants et d'États, malheureusement ou heureusement. Bon, de toute façon, moi je pense que si des alternatives se développent réellement, à un moment ou à un autre, il y aura un affrontement avec l'État.
Oui, ouais.
Je ne le souhaite pas. Oui, mais,
sachant que je pense que dans ces alternatives-là, ça ne fait pas peur qu'à l'État local. Je pense aussi, aujourd'hui, avec les moyens de communication que nous avons, ça peut donner des idées à tous les Parisiens, à tous les Londoniens, à tous les New-Yorkais ou à tous les Abidjanais sur un autre monde est possible. Donc à la fois, l'État local a intérêt à réprimer ces initiatives-là et l'État local, avec les autres États, ont intérêt à ce que ça ne se diffuse pas comme un modèle potentiellement développable. Donc il y a des enjeux tout à fait essentiels. On n'a pas évoqué les Gilets jaunes. Alors les Gilets jaunes, c'est quoi ça ? C'est proche de la commune de Paris ou certains groupes étaient proches de la commune et d'autres pas ?
Attends, j'avais une intervention ici.
Moi, je voulais aller dans le sens de Serge. Effectivement, on arrive assez facilement à se confronter à l'État. Dès lors qu'on s'occupe de nos propres affaires. L'exemple... En ce moment, à Publico, on a la librairie Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e, métro République, Fille du Calvaire. Et j'adore Fille du Calvaire, évidemment, vous imaginez bien, Oberkampf. Il y a une exposition sur le jade d'Aubervilliers. Hein, voilà.
Dis ce que c'est que le jade, peut-être.
Le jardin à défendre, comme il y a des zones à défendre, et bien il y a des jardins à défendre, parce que l'État, 2024, ça doit vous causer quelque chose. Hein, l'État a décidé de faire un solarium et un centre d'entraînement de natation sur une zone qui était... pas construite, ou alors en débordant même sur des parties construites. Bon, pour dire, il y a une exposition en ce moment, voilà, très proche de Paris, quoi. Hein, mais tout de suite, il y a l'État qui intervient. Donc c'est la réflexion, comment on va faire, je pense à Bure aussi, Bure, qui lutte depuis des années et des années, comment on fait pour contourner ça, pour... Et je pense à ce qui s'était passé en Angleterre pendant 20 ans sur une zone d'enfouissement nucléaire. 20 ans, ce sont les femmes qui se sont enchaînées pendant 20 ans. Hein, 20 ans. En Angleterre, on n'est pas dans le sud de la France, il pleut tout le temps, on est dans la boue. Voilà. Et elles étaient là avec une chanson. Chaque fois que les militaires arrivaient, elles se mettaient à chanter. 20 ans que ça a duré. Hein, voilà. Sauf que, bah, au bout de 20 ans, on s'essouffle aussi. S'il n'y a pas, et c'est là surtout ça que je voudrais dire, si on n'arrive pas à fédérer ensemble toutes ces luttes et à être, voilà, à lutter ensemble. Parce que tout ça, quand on s'occupe de nos affaires, c'est nos affaires à nous et ça nous concerne tous.
Voilà une autre intervention. Il y avait aussi le cas de Plogoff aussi qu'on peut citer, hein, qui avait gagné de haute lutte contre l'État. Voilà.
Je voulais revenir sur la partie, une question qui a été posée sur les gilets jaunes, mais je voulais revenir sur la partie affrontement par rapport à... Comme ça, c'est bon ? Ok.
Tant mieux, là.
C'est ok. Donc je voulais revenir sur la partie affrontement face à l'État, les points communs avec, entre la commune, le Rojava, le Chiapas, ce genre de choses aussi, c'est que... il y a des milices populaires, en tout cas c'est la population qui est armée. On n'a pas en France cette culture de l'arme à feu comme on peut l'avoir. Oui, effectivement, c'est quelque chose de très connoté par l'extrême droite. Mais je pense par rapport aux États-Unis, où il y a justement des associations pour le port d'armes qui sont plus... à gauche ou à l'extrême gauche, comme la Socialist Rifle Association ou ce genre de choses. La question, c'est est-ce que nous, dans nos affrontements, on sera amené un jour à devoir prendre les armes face à l'État ? Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui souhaite ça activement. Est-ce que ça va devenir une nécessité d'entretenir cette culture de la défense populaire, voire la défense populaire armée, dès qu'il y a des alternatives qui prennent de l'ampleur.
D'accord, merci. J'ai une autre intervenante. Excusez-moi. Voilà. Je fais de la gymnastique, oui, voilà.
Merci bien. Alors, je voudrais réagir à la proposition qui vient de nous être donnée. C'est que l'autodéfense, ce n'est pas nécessairement violent et ce n'est pas nécessairement armé. Nos camarades allemands, anarchistes allemands, d'un groupe qui s'appelle Graswurzelrevolution, nous expliquent inlassablement que la défense dans un affrontement, ça peut être non-violent, ça peut être la désobéissance civile, ça peut être toute une série de formes de résistance et d'opposition qui ne recourent pas nécessairement aux armes de l'ennemi.
D'accord, nous allons repasser le micro. Je ne vais pas lui faire...
Voilà. J'ai renoncé tout à l'heure, je le reprends maintenant. Bon, juste par rapport à l'alternative sur le fait que... tout à l'heure... Je n'ai pas dit, c'est que l'État s'accommode très bien des alternatives. Ça leur sert même de caution, comme quoi ils sont vraiment démocratiques. Vous voyez, même les anarchistes, on les laisse faire des choses qui vont contre nous. Sauf qu'à partir du moment où ça se généralise et que ça prend de l'importance, là, il y a forcément rupture. Est-ce que c'est à dire, ça veut dire qu'il faut renoncer à ces trucs-là parce que c'est perdu d'avance ? Non. Ce sont justement c'est de l'éducation populaire. En fait, on expérimente, on montre que c'est possible. Et si on commence à prendre de l'importance, là, on représente un problème pour l'État. Bon, la question de la lutte armée, etc., inutile d'aller attaquer l'État sur un terrain où il s'est préparé et où il nous attend. Hein? Je pense que nous, on a le nombre et l'intelligence de notre côté. Ils ne sont pas bêtes en face, mais nous non plus. Donc on fait, par exemple, tout simplement, aujourd'hui, cette société de surveillance, de où on dit, de toute façon, de toute façon, je peux le dire, ça, de toute façon, les flics, ils savent tout. Hein, ils savent surtout ce qu'on leur dit par négligence, hein, parce qu'ils ont tellement de moyens de nous fliquer, etc., qu'ils n'ont plus assez de personnel pour écouter les bombes, pour écouter tous ces trucs-là. Et en même temps, leur force, c'est leur faiblesse. C'est-à-dire que on voit comment les mecs qui sont spécialistes d'informatique, etc., comment très facilement ils arrivent à rentrer dans des données, etc. On voit Snowden qui le paye cher peut-être, mais qui est capable de sortir tout tous les trucs les plus sucrés, les plus sucrés, les plus secrets des États-Unis. Et c'est bien sucré. Et finalement, bon, moi, je trouve que c'est là peut-être qu'il faut agir. Aujourd'hui, on a un monstre au pied d'argile. Je veux dire, c'est facile de foutre tout ce système en l'air. Il suffit de maîtriser l'informatique de la même façon que dans une usine, quand tu as des petits chefs qui t'emmerdent, etc., tu peux faire grève, mais il faut arriver à décider les gens qui ont besoin des sous et qui ne peuvent pas faire grève. Mais tu peux aussi saboter. Hein, tu fais pas grève, tu continues à être payé, tu arrêtes tout de suite production, hein, tu fous le petit grain de sable dans la machine, ça suffit. Hein. Moi, je pense qu'on connaît pas notre force. Hein, on est, voilà, ils sont forts que parce que nous sommes à genoux, quoi.
De la Boétie. Hein. Voilà, y a-t-il encore quelqu'un qui veut intervenir? Oui. Ah, y avait quelqu'un. Ah oui, avant. Pardon.
Moi, ça serait pour rebondir sur ce que la camarade disait sur les manières de militer. Alors, loin de moi l'idée de faire une apologie de la non-violence, mais c'est vrai que pour justement rebondir sur cette question de se militariser nous-mêmes, c'est pas forcément une nécessité, et il y a des moyens très concrets, notamment sur les terrains de manifestation, de pouvoir répondre à la violence de la police qui, elle, pour le coup, se militarise de plus en plus. C'est notamment de réinvestir le terrain des street medics, qui s'est complètement dépolitisé pendant le mouvement des Gilets jaunes, notamment parce que les médias se sont réappropriés cette figure qui est pourtant hyper militante de nature, enfin à l'origine, et de pouvoir se former, et notamment les filles. Vraiment, on manque de filles street medics qui sont complètement invisibilisées par des hommes souvent qui viennent des milieux pompiers de la Croix-Rouge française, qui sont ultra violents avec les victimes et traumatisants, pour vraiment justement faire comprendre que c'est pas forcément l'usage de la force via le cortège de tête qui a son importance, parce qu'on en voit vraiment les limites, mais qu'au contraire, faire défense nous-mêmes, donc en prenant en charge les camarades blessés et les maintenir autant que possible face à la violence qui nous assaille en sécurité, c'est aussi une manière concrète de résister.
Pour rebondir à titre personnel... pour le problème de la violence, s'ils sont méchants avec nous, c'est que on est peut-être un petit peu trop gentil avec eux. Donc c'est bien gentil de manifester les samedis, les dimanches de façon consécutive, et qu'ils ont mis maintenant une politique de terreur, et je rappelle que le LBD n'est pas une arme innocente, elle est classée comme étant une arme de guerre et utilise des cartouches pyrotechniques à base de poudre, comme des cartouches de chasse. C'est uniquement le changement de matériaux. Ce n'est plus de la chevrotine, donc du métal, mais une balle en caoutchouc avec un certain indice de dureté qui ne pénètre pas, mais qui fait une onde de choc et qui peut tuer, dans le cas comme de celle de Zineb Redouane, en son domicile, et que l'IGPN, n'arrive pas à trouver les coupables. Donc là aussi, il y a peut-être une réflexion à se dire. C'est bien gentil d'aller en manifestation et de s'en prendre plein la poire. La violence a ses limites, et la non-violence aussi a ses limites, parce que on n'est pas que là que pour se faire taper dessus. Oui. Voilà, je passe la parole.
Attends, peut-être faire attention quand même, parce qu'il y a un texte qui est tout à fait essentiel, qui a été écrit en Suisse, je crois, par Benoît Malon. Benoît Malon écrit en 1873, mais enfin, pour la date, c'est pas sûr, la troisième défaite du prolétariat. Et ce qu'a compris Benoît Malon, c'est que face à l'armée qui a écrasé la Commune, face à l'armée qui a écrasé 48, face à l'armée qui a écrasé la Révolution de 1830, c'est sans doute pas par la force militaire que le prolétariat se libérera. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on invente le syndicalisme révolutionnaire, c'est-à-dire la grève générale. On arrête tout, et ils seront bien forcés de nous laisser la place.
Comme ça avait fonctionné en 1968, d'ailleurs, hein, avec les accords de Grenelle.
Plus à part qu'on n'a pas déclaré l'autogestion généralisée, quand même.
Voilà, et c'est exact. C'est exact.
Nuance.
Voilà, je passe la parole tout de suite.
On a beaucoup parlé ce matin de fraternisation entre les femmes le 19 mars 1871, quand les soldats voulaient enlever les canons. Fraternisation aussi à Narbonne, mais pendant le XXe siècle, il y a eu des débuts de fraternisation durant la guerre d'Espagne, Il y en a eu aussi avant, il y en avait eu en 17, 18 et 19. Par exemple, en 1921, il y a eu une fraternisation entre les premiers bataillons. Enfin, je n'ai jamais fait de service militaire réellement, donc je ne connais pas les différences entre unité, bataillon, etc. Mais de l'armée rouge, quand ils ont vu les Kronstadtiens en disant « Ah mais c'est vous, vous n'êtes pas des tsaristes ?» Ah ben alors on était. Et pourquoi vous êtes contre nous? Chacun a dit pourquoi vous êtes contre nous? Bah parce que c'est pas les Soviets. Vous pouvez pas dire que vous êtes avec les Soviets en étant avec Lénine. Ah ben oui, vous avez raison. Donc je veux dire, la fraternisation, elle a existé. Est-ce qu'elle peut exister actuellement? Est-ce qu'elle existe en Biélorussie? Est-ce qu'elle existe en Afghanistan entre les talibans qui cognent sur, finalement, leur sœur? Je veux dire que le pouvoir est encore très capable. Et je vous rappelle, les Tolstoïens, ils ont appliqué, face aux soi-disant représentants des Soviets, ils ont dit, mais nous, on fait la grève de la faim. Vous voulez nous exterminer? Mais non, on va vous convaincre. Et c'était notamment dans les camps des îles Solovki, autorisés par Lénine, que ça a eu lieu. Et comme le rappelle Solzhenitsyn, les gardiens, les membres de la Tchéka créés par Lénine, rigolaient. C'est pour ça que les Tolstoïens n'ont plus fait de grève, de protestation. Donc je pense que une société réagit plus ou moins spontanément et trouve des moyens de résistance. En Biélorussie, ils n'en trouvent pas. En Espagne, en 1936, ils en avaient trouvé. Je pense que ce n'est pas à nous de prévoir. Hein. On ne va pas trouver des missiles noirs et rouges, anti-missiles d'une bande de cloaques, des fils de cloaques. Bon. Donc, je pense qu'il faut être à la fois très vigilant et par rapport à l'usage possible des armes. Si personne, on a eu l'exemple d'Action Directe en France, avec une grande partie des gens qui n'ont rien compris. Et ce n'était pas tellement éloigné. C'est beaucoup moins éloigné que, disons, Kronstadt. Donc, je veux dire, la non-violence, bon, les Tolstoïens ont montré leurs limites. Le futur, ou le présent, puisqu'on a déjà un pied dans le futur, nous donnera des solutions. On peut penser à des tas de solutions, mais elles viendront des autres camarades exploités. Ce n'est pas à nous de prendre la tête.
Une dernière question, et puis on va faire une petite pause avant d'entamer les communes d'un peu partout et d'ailleurs.
Voilà.
Non, juste ce que j'entends depuis tout à l'heure, et si on veut faire le lien entre la Commune de Paris, le Chiapas, le Roya, et voire même le lycée autogéré de Paris, c'est une force émancipatrice. C'est-à-dire qu'il y a un désir d'émancipation qui est là, qui est présent et qu'il faut pouvoir soutenir. Je disais tout à l'heure à ma compagne à côté, là, que notre plus grand ennemi, c'était aussi la servitude volontaire, pour reprendre la question de la Boétie. Donc il y a ces questions-là qu'on a à travailler. Pour autant, cette force émancipatrice, il faut qu'on puisse s'appuyer dessus, continuer à la porter avec voilà, ce qu'on fait, avec le goût de la controverse, le goût du pluriel et le désir de faire perdurer des expériences telles que la Commune de Paris, en ayant bien en tête qu'on a aussi cet ennemi, je pense, qui est la question de la servitude volontaire, voire la question, pour certains, puisque ça se reproduit dans l'histoire d'un amour de l'autoritarisme. Et ces questions-là, on ne pourra pas les balayer comme ça. Donc, appuyons-nous sur ce désir émancipateur qui, pour moi, est présent et en chacun de nous et dans l'histoire.
Voilà, merci pour cette dernière intervention. Nous allons faire maintenant une pause. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire. La fréquence est 89,4 MHz, la radio sans Dieu, sans maître de la Fédération anarchiste.